BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est parti pour BFM Patrimoine. On vous accompagne ce matin comme chaque jour pour vous offrir 2 heures d'expertise qui vous permettent de gérer au mieux votre argent. Et on commence par un survol de l'actualité avec Raphaël Couder.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, le projet de loi Industrie verte présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Le gouvernement dévoile ce matin les détails de ce texte qui vise à accélérer la réindustrialisation au programme réduction des délais d'implantation d'usines et crédit d'impôt pour les projets bas carbone. Le texte doit ensuite arriver à l'Assemblée nationale à la mi-juillet. Les syndicats de retour à Matignon pour la première fois depuis la promulgation de la réforme des retraites. Elisabeth Borne reçoit en fin d'après-midi et demain les principales organisations syndicales et elle se dit à l'écoute de leurs priorités. La question des salaires devrait être au centre des discussions. Dans un contexte d'inflation, les syndicats veulent faire monter les enchères après l'adoption au forceps de la réforme des retraites. Et à ce propos, un rendez-vous à ne pas manquer sur BFM Business. Edwige Chevrillon recevra ce soir à 19h30 Marc Ferracci, le vice-président du groupe Renaissance et pilote du groupe de travail du projet sur le projet de loi sur le partage de la valeur. La France réunit aujourd'hui à Paris une coalition de 16 pays européens pro-nucléaire. L'Allemagne ne sera pas là. En revanche, un invité surprise, le Royaume-Uni. L'objectif, c'est de peser sur la politique énergétique de l'Union européenne, alors que la Commission mise pour l'instant beaucoup sur les énergies renouvelables. Dans l'actualité des entreprises, la dette de Casino bientôt examinée par un conciliateur, c'est ce qu'indique le patron d'Invivo. Ce matin, Invivo, le groupe qui détient Teract et qui est sur les rangs pour reprendre l'activité française du distributeur. Un conciliateur sera donc nommé le 22 mai, ce qui permettra d'avoir une meilleure visibilité sur l'étendue de la dette de Casino, estime le patron d'Invivo. Et puis une acquisition importante pour Edenred. Le groupe va racheter la plateforme Reward Getaway pour 1,3 milliard d'euros. Cette entreprise, surtout présente au Royaume-Uni et en Australie, est elle aussi spécialiste des avantages pour les salariés. Elle va permettre à Edenred de se positionner comme leader dans 2 nouveaux pays et elle apportera également une présence prometteuse à Edenred aux États-Unis.
Merci beaucoup Raphaël. Raphaël Couder, qu'on retrouve chaque heure, donc on se donne rendez-vous à 11h pour suivre l'actualité économique. Nous tout de suite, on se connecte au marché actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Avec Antoine Larigauderie, une heure presque pour rien, dira-t-on. On est au même niveau qu'hier soir.
C'est exactement ça. Alors, on a cru qu'il y avait un petit peu de mouvement à l'ouverture et c'était plutôt encourageant. Une sorte de petit pullback du CAC 40 pour essayer de tester les supports. On est passé légèrement sous les 7400. Et puis, au terme de la première heure de cotation, on revient quasi strictement au point d'équilibre, moins 0,05%. 7414 points, un marché qui n'en finit pas d'être immobile, si on peut dire, avec une tendance très hésitante aussi sur les autres places européennes. On a un Eurostock 50 qui gagne 0,09%, plus 0,09 aussi pour le DAX à Francfort. Du côté de l'IBEX, tiens, on gagne 0,34%. Enfin, rien de vraiment probant. On avait une tendance plutôt positive, en plus en clôture du côté de Wall Street. On pensait que ça allait un peu animer les choses, mais rien du tout. En fait, aucun écho sur les places européennes. On reste en plus sur des volumes d'échanges très très bas. On a à peine dépassé c'est le cap des 300 millions d'euros d'actions négociées en une heure. C'est vraiment très très peu et on l'a vu hier. Maintenant, on peine à boucler des journées à 3 milliards d'euros d'actions négociées. On est plus du côté des deux. Donc, un marché très calme, sans trop de dynamique, sans trop de volume, très attentiste. Alors, c'est vrai que ça pourrait changer un tout petit peu aujourd'hui vu la quantité de statistiques économiques qui sont attendues du côté de la zone euro avec la deuxième estimation de l'inflation, du côté de l'Allemagne avec l'indice ZOO, du côté des États-Unis. Il y a pas mal de choses à guetter cet après-midi du côté de Wall Street en termes de statistiques économiques, mais pour l'instant vraiment rien de probant. Du côté des valeurs qui se distinguent, à noter sur le SBF 120 une bonne performance de Forcia qui gagne 4,5% à 19,70 €. On a Elior aussi qui gagne 1,8% à 3,88 €. Anta Infrastructure Partners qui prend 1,9% à 15,29 €. Et la plus forte hausse du CAC 40, elle est pour STMicro qui a été assez volatile en début de séance mais qui maintenant gagne 1,5% à 39,35 €. À noter aussi la bonne performance du Crédit Agricole, plus 0,9% à 11,78 €, ou d'Engie, plus plus 0,8 à 14,91 €. En revanche, à la baisse, on retrouve Bouygues, moins 2,36 €. Alors, c'était la seule actualité chaude du matin avec les performances trimestrielles. Elles sont arbitrées à la baisse, moins 2,33 €. Donc, pour le titre qui est à 31,03 €. Renault, moins 1,32 € à 32,98 €. Vivendi, moins 1,17 € à 9,62 €. Du côté du SBF 120, donc Bouygues signe la plus forte baisse, mais on a OVH aussi, moins 2,10 € à 10,72 €. Et Casino, dont vous parliez à l'instant, qui perd 1,9 % à 6,58 €. Le CAC, donc, en très, très léger repli, moins 0,05 €. On est à 7,414 €. Et l'euro face au dollar reprend quelques forces. Bon, enfin, on reste sur une phase de vraie consolidation de la monnaie unique face au billet vert. On est à 1,0891.
Antoine Larigauderie, qui nous fait vivre chaque matin à l'entame de BFM Patrimoine cette première heure de cotation. Merci Antoine. Nous, on reste connectés au marché actions. On explore la cote parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Sébastien Féjean, en ligne depuis Demidcap. Bonjour Sébastien.
Bonjour Cédric.
Vous nous proposez un coup de projecteur ce matin sur Trigano, qui est au cœur de l'actualité en ce moment. Hein.
Oui, en fait, il y a deux sujets principaux. C'est le premier, évidemment, c'est l'annonce et la publication de ces résultats semestriels qui sont attendus demain soir. Alors, ils nous gâtent de nous faire ça juste avant un grand pont, mais bon, écoutez, le marché est ouvert, donc nous on travaille.
Exactement.
Et voilà. Et sinon, bah, évidemment, il y a eu l'annonce il y a 20 ans, bah, pareil, hein, c'était en plein milieu d'un week-end, ou pas très loin, c'était évidemment l'annonce de l'acquisition des activités de résidence mobile de Beneteau. Donc, il réalise, je vous rappelle, un chiffre d'affaires un peu plus, enfin, supérieur à 260 millions d'euros, pour une marge opérationnelle de 9,5 %. Et donc, l'acquisition est prévue d'être réalisée quelque part d'ici la fin 2023. Donc, c'est évidemment des éléments qu'on va scruter avec intérêt demain, puisque nous sommes invités à une présentation.
Voilà donc pour le cadre qui justifie la mise en lumière ce matin de ce dossier Trigano. Est-ce qu'on peut rentrer justement peut-être dans le détail de cette entreprise ?
Oui, bien sûr. Trigano, vous savez, c'est le leader européen des véhicules de loisirs, notamment des camping-cars. Hein. Donc, le groupe s'est développé à la fois en croissance organique, mais également en réalisant beaucoup d'acquisitions. Alors aujourd'hui, il est dans une nouvelle phase de son développement, en donc développant son activité vers les concessionnaires. Hein. Il a fait pas mal d'acquisitions l'an dernier. Il continue à en faire donc de manière beaucoup plus ciblée dans des régions, de manière à mailler le territoire et donc à finalement s'intégrer beaucoup plus verticalement qu'il n'avait fait auparavant. Donc l'idée, c'est à la fois d'être en mesure de pouvoir mieux distribuer ses camping-cars, mais également, le cas échéant, de récupérer des parts de marché pour des concurrents qui ne souhaiteraient pas justement être distribués par Trigano, même si, encore une fois, le groupe applique les mêmes conditions, que ce soit à des concessionnaires indépendants ou à des concessionnaires qui appartiennent à son groupe.
Voilà donc ce point. Un point à suivre, c'est cette histoire de Beneteau. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ce pôle Habitat ? Ce sont des mobilhomes, hein, on va être très clair.
Voilà. En fait, c'est évidemment pour adresser le marché du camping, qui est évidemment en fort développement. Là, l'intérêt, c'est que Trigano, en faisant cette acquisition, qui représentait un peu moins de 15 % du chiffre d'affaires de Beneteau, évidemment trouve une position de leader européen. Beaucoup de synergies, puisque évidemment, c'est encore une fois un métier qui est très proche de celui de Trigano historiquement, puisque vous avez globalement des fournisseurs qui peuvent être comparables. Et évidemment, vous avez encore une fois tout le développement de l'hôtellerie de plein air, hein, qui est en plein boom. Et donc, finalement, ça rejoint exactement la stratégie de Trigano, c'est de prendre des positions de leader, de bénéficier d'une taille critique, et évidemment de pouvoir, en fait, à la fin, bénéficier d'une capacité d'achat qui permet de finalement générer des marges.
Donc pour vous, la visibilité est bonne sur Trigano ?
Alors, c'est la bonne question. En fait, nous avons d'abord un titre qui reste très faiblement valorisé, hein, donc ce qui va être intéressant, c'est la publication de demain, puisque nous on attend quand même un repli du résultat opérationnel sur le premier semestre de l'ordre de 10 %. Et c'est vrai qu'on quand on regarde un peu le consensus, on a l'impression que les gens sont un peu plus optimistes. Donc ça, c'est le premier point. Donc peut-être un risque de déception si effectivement on a plus raison et les autres ont plus tort. Et surtout, l'autre point, c'est évidemment de voir un peu quelles vont être les perspectives pour l'an prochain, puisque encore une fois le marché reste un marché de consommation discrétionnaire, et avec les contraintes qu'on a actuellement sur le pouvoir d'achat, on peut se dire que peut-être que les hausses de prix que le groupe a passées pourrait entraîner un marché qui serait un peu moins dynamique l'an prochain, encore une fois en organique, puisque comme le groupe est très actif sur la partie croissance externe, on n'a pas de sujet sur les perspectives de croissance pour l'an prochain.
Du coup, qu'est-ce qu'on se dit sur le titre, sur Savalo, sur son parcours, sur son potentiel?
Ah, disons que si effectivement les investisseurs ne considéraient pas que il y aura une baisse importante du chiffre d'affaires de Trigano l'an prochain, on aurait du mal à comprendre pourquoi est-ce que on a des multiples de valorisation aussi faibles, hein, puisque là on est à 0,6 fois en valeur d'entreprise sur le chiffre d'affaires, ce qui est historiquement très très faible. On regarde le PER de Trigano, hein, qui est quand même un bon indicateur, puisque là vous avez une vision très claire de on se valorise moins de 8 fois, enfin 8,5 fois selon nos prévisions pour l'année en cours. Donc, alors que c'est une société qui quand même génère beaucoup de croissance, génère beaucoup de résultats, génère beaucoup de free cash flow, et donc est en mesure de pouvoir développer son business en faisant des acquisitions. Donc, encore une fois, il y a un hiatus entre ce que les prévisions des analystes sont et finalement ce que la valorisation de l'entreprise est. Donc, il y en a un des deux qui a tort. Hein. Donc j'espère que du coup, nous on reste évidemment acheteurs sur le titre, puisque encore une fois, c'est les multiples de valorisation, beaucoup de mauvaises nouvelles sont prises en compte.
Avec quel objectif de cours?
Pour l'instant, on est autour de 138 euros, mais on verra avec l'acquisition des résidences mobiles de Beneteau si on n'a pas beaucoup de choses à relever.
123,50 ce matin, en tout cas en hausse de 0,5% pour Trigano. Merci beaucoup Sébastien Féjean et ID Midcaps qui nous accompagnaient ce matin dans ce monde des petites et moyennes capitalisations que l'on explore au quotidien pour vous donner quelques idées d'investissement. Le marché parisien en toute petite baisse de 0,1%, 7411 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et c'est Philippe Wächter qui nous attend chez Ostromaem. Bonjour Philippe.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Tant d'incertitudes dans la tête des investisseurs quant à cette histoire de plafond de la dette américaine. Il y a quelques simples semaines, ça paraissait comme un sujet dont on ne reparlerait quasiment jamais. Et il n'a suffi que de quelques jours pour que ça devienne un sujet de préoccupation majeure. Avec ce chiffre qui tourne un petit peu dans toutes les têtes, 88 milliards, c'est ce qui resterait aux États-Unis pour finir le mois. Comment vous voyez les choses, Philippe?
Ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup d'évocations d'un défaut américain. J'ai l'impression que sur cet aspect-là, on n'en mesure pas l'ampleur. C'est-à-dire que tout le monde a des dollars, tout le monde a des bons du Trésor américain. Et donc, s'il y avait un événement de crédit, c'est-à-dire si les États-Unis ne payaient pas leurs intérêts ou étaient incapables d'emprunter, je ne sais pas quel type d'onde de choc on aurait à ce moment-là. Je pense que ce serait le scénario le pire qu'on puisse avoir. J'ai plutôt tendance à imaginer qu'à un moment donné, un compromis sera trouvé pour effectivement réduire l'activité d'un certain nombre d'administrations américaines pour que l'État américain ne fasse pas défaut, parce qu'on est dans cette situation. Soit on trouve un compromis là très rapidement, soit il n'y a pas de compromis, mais une partie de l'administration s'arrête de fonctionner, comme c'est arrivé plusieurs fois par le passé, soit il y a défaut, et le défaut est la pire des solutions qui puissent être imaginées.
Quel est le scénario central chez Ostrom?
Moi je pense qu'on va avoir un shutdown, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'administrations qui ne seront plus payées.
Ouais. On rappelle, on commence par les parcs nationaux, par
Exactement. Tous ces éléments qui ne sont pas essentiels et qui peuvent être sur lesquels on peut sursoir pendant un mois peut-être, ou le temps de trouver un accord. Ce qui est nouveau dans la période actuelle, c'est que il y a une vraie tension politique. Alors, on n'est pas sur des questions économiques quand on discute de cette problématique. On est sur une question purement politique. Joe Biden a annoncé sa candidature pour 2024. Trump a annoncé sa candidature. McCarthy, le patron des représentants des républicains à la Chambre des représentants, a été élu parce qu'il a eu les voix des Trumpistes. Et donc, là, on a une situation politique extrêmement polarisée. Et c'est ça, la fragilité de la situation. Elle est là, elle n'est pas dans une un risque, enfin dans une perception, une construction économique. Elle est purement politique, avec comme enjeu les élections de 2024. Et ça, c'est quelque chose que spontanément on a du mal à maîtriser.
Vous avez rappelé dans votre propos d'introduction tout ce que représentait un défaut, enfin tout ce que pourrait représenter un défaut américain, même juste un petit incident. C'est curieux, quand on sait tout ça, de voir un des deux que vous avez cité, en l'occurrence Donald Trump, presque encourager ses troupes à provoquer un défaut.
Oui, mais c'est pour ça que la dimension politique est la plus effrayante de cette histoire. L'actif américain, le bon du trésor américain, est perçu à l'échelle internationale comme l'actif sans risque. Et donc, si à un moment donné, vous avez un doute sur l'actif sans risque, quelle sera votre perception des actifs plus risqués? C'est ça la mécanique. Et tout le monde est dans cette position-là. Et on a des effets de diffusion qui pourraient être terribles. Et donc, il y a une dimension politique de Trump et de ses troupes qui est absolument hallucinante aujourd'hui et qui fait prendre un risque très fort à l'ensemble de l'économie globale, hein, pas simplement aux États-Unis, pas simplement aux marchés financiers, mais à l'économie globale. Parce que d'un seul coup, comment on se finance dans une économie dans laquelle il n'y a pas d'actifs sans risque? C'est ça l'enjeu aujourd'hui de cette discussion.
Philippe Vechter, merci beaucoup d'avoir lu pour nous cette actualité américaine. Donc Ostrom AM qui nous accompagnait ce matin. Très bonne journée Philippe. Le marché parisien, juste sur son niveau d'étiage d'hier soir, moins 0,03%, 7415 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Marc Cœur de Roy.
Bonjour Cédric.
On accueille ce matin Stéphane Descartier pour la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane.
Bonjour Cédric, bonjour Marie, bonjour à tous.
Il est en mode coup de gueule Stéphane.
Ouais, vous semblez un peu dépité, il vous manque quelque chose ce matin?
Non, bah écoutez, j'avais prévu de vous parler des propositions du CNR sur le logement. Bon, malheureusement, comme vous l'avez entendu, donc les annonces ont été reportées. Alors d'abord Sinédier, puis on a peut-être...
Il y a des contraintes d'agenda.
Oui, contraintes d'agenda. Oui, c'est vrai que bon, c'est pas comme si le sujet était un peu important et un peu urgent. Bon, en tout cas, effectivement, c'est peu dire que les professionnels sont quand même un peu consternés.
Mais ce sera le 5, hein, on précise à nos auditeurs, ça devait être le 9 mai, et ce sera finalement le 5 juin.
Le 5 juin, peut-être. Bon. Mais non, surtout ce qui a effectivement vraiment effrayé beaucoup inquiété, hein, je crois, l'ensemble des professionnels du logement. C'est une interview de notre président à Challenge la semaine dernière, ce qui a d'ailleurs déclenché une lettre ouverte. C'est un véritable, pour le coup, front syndical, puisque c'est la mode de l'ensemble, moi j'ai jamais vu ça, l'ensemble des professionnels du logement pour effectivement quand même alerter ce qu'ils font depuis des mois. Mais bon, le CNR, ok, bon, ça bosse, les conclusions reportées. Et puis, cette interview effectivement de notre président, où quand même le président déclare « On a créé un système de surdépenses publiques pour de l'inefficacité collective. » Alors, inefficacité collective, ça, on peut être d'accord. Moi, personnellement, je suis d'accord. Mais surdépenses publiques, en revanche, de quoi est-ce qu'on parle? Quels sont les chiffres? Marine l'a déjà dit plusieurs fois, les aides au logement n'ont cessé de baisser depuis 6 ans, puisqu'on était par exemple à 42 milliards d'euros d'aide en 2016 et on est passé pour l'année dernière à 38 milliards d'euros, donc on a rogné 4 milliards d'aides, quand même c'est pas rien.
Il faut savoir, d'entre parenthèses, hein, d'un mot, c'est pas comme si on avait retiré les aides qui bénéficiaient aux plus riches, hein. En l'occurrence, le plus gros de la dépense publique qui a reculé, c'est sur les APL.
Oui, les APL notamment.
Voilà, faut quand même le dire.
Nous sommes d'accord. Mais surtout, ce qui est quand même aussi à souligner, ce qui a très bien dit Véronique Bénard, la patronne de Nexity, encore un article, très bon article dans le Figaro cette semaine. Les recettes pour l'État et les collectivités locales, en revanche, là, ont explosé, puisqu'on est passé en 6 ans de 68 milliards de recettes en 2016 à 90 milliards pour l'année dernière.
Et ça, ce sont vraiment deux chiffres qu'on peut mettre face à face. Hein.
Ah, ça, ce sont deux chiffres
incontestables.
Oui.
38.
Oui.
Et ça rapporte
90.
90.
Voilà.
Donc
le calcul est simple. C'est 52 milliards. Effectivement, le logement rapporte 52 milliards à l'État. C'est quatre fois au passage, hein, quatre fois ce qu'on a économisé en rajoutant 2 ans de cotisation aux Français pour les retraites, hein, ouais. Bon, juste comme ça en passant. Alors donc, sur dépenses ou sur profit, bon, bah, telle est la question, hein, ouais. On peut se poser les questions.
On y répond comment?
Alors on y répond comment?
Bah, visiblement,
on va
pas
voir.
Tout de suite.
Bon, et puis alors, bah, on verra peut-être effectivement le 5 juillet.
Juin, pardon. Stéphane.
Ou alors Stéphane a des infos.
Oui, non, malheureusement, non. Malheureusement, non. Non, puis alors, aussi, la déclaration qui a vraiment du mal à passer chez les professionnels de l'immobilier de notre président, c'est, là aussi je cite, la vérité. Il n'y a pas de nuance en plus. Hein. La vérité, c'est qu'on a créé un paradis pour l'investisseur immobilier. Paradis pour l'investisseur immobilier. Donc, paradis de quoi ? On peut se poser la question. Est-ce que c'est un paradis libéral, un paradis réglementaire ? Bah, si on examine un petit peu le parcours que peut faire un investisseur immobilier en France, déjà, c'est l'État qui décide si vous pouvez emprunter ou pas et combien. Avec son fauné du HCSF. Ensuite, c'est l'État qui vous autorise ou pas à louer votre logement. Donc, s'il est mal isolé, c'est non. Si c'est du Airbnb, c'est non. Bientôt, le permis de louer partout. Ensuite, c'est l'État qui vous donne le montant de votre loyer, qui définit le montant de votre loyer, hein, quand même, puisque dans quasiment toutes les grandes métropoles, depuis la loi Allure de 2014, confirmée en 2018 par le gouvernement d'Emmanuel Macron, donc les villes ont la possibilité de plafonner les loyers, elles ne s'en privent pas. Donc quasiment toutes les métropoles aujourd'hui, ben, c'est pas vous qui décidez du montant de votre loyer, c'est l'État qui décide de la revalorisation de votre loyer, puisque on avait dit que c'était l'inflation, et puis quand on fait de l'inflation, bah c'est plus l'inflation, c'est la moitié de l'inflation. Donc, mais surtout, le plus grave, c'est l'État qui, avec une inflation normative délirante, a rendu le droit à construire complètement ubuesque, kafkaïen. Enfin là, les promoteurs aussi ne cessent de dire que notamment le choc d'offres qu'on nous avait promis, c'est peu dire qu'il n'a pas eu lieu.
Oui, bien sûr.
J'allais dire, et tout le monde dit, c'est pire.
C'est pire. Depuis, et ce qui est pire. Génial, c'est qu'en plus, il reprend ses mots, Emmanuel Macron, dans l'interview à Challenge, il reparle du choc, et d'ailleurs, dans la fameuse lettre publiée hier par les grosses fédérations, il parle d'un électrochoc, en mode, le choc, c'est terminé, on n'y croit plus, donc là, il va falloir vraiment sortir l'artillerie
lourde. Donc le choc, ça n'a pas marché, donc l'électrochoc, alors bon, on ne sait pas trop. Ouais. Non, mais surtout, et pour finir là-dessus, donc bon, le paradis réglementaire, pas vraiment. Alors peut-être le paradis fiscal pour l'investisseur immobilier, ben pas vraiment non plus, parce que quand vous avez respecté toutes ces règles, ben vous êtes mangé à votre tranche d'imposition plus les prélèvements sociaux à 10,2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire. Au moins tous les autres revenus ont bénéficié de la flat tax, mais l'immobilier non. Donc c'est le pire des systèmes fiscaux. Donc en gros, sur vos loyers nets, c'est entre un tiers et deux tiers qui repartent.
Vous
en
êtes en train de nous dire que c'est un enfer et pas un paradis?
Bah, si c'est ça le paradis, ça donne des envies d'enfer, hein. Parce que quand vous rajoutez la taxe foncière qui explose, et c'est encore pire depuis que la taxe d'habitation a été supprimée, et l'IFI, puisque l'immobilier est le seul actif où on a conservé l'ISF.
Alors après l'IFI, on va être honnête, Stéphane, parce que je vais pondérer un peu vos propos quand même. L'IFI, c'est juste une partie qui reste de l'impôt sur la fortune qui a été supprimée.
Oui.
Donc c'est pas pire qu'avant.
Non, c'est pas pire qu'avant, mais il y a que l'immobilier qui supporte effectivement encore cet impôt. Les taxes foncières, enfin l'augmentation des taxes foncières,
ça, c'est
vu à Paris, 62%, à Grenoble, plus de 50%. Enfin les maires se rattrapent notamment effectivement du fait de la suppression de la taxe d'habitation, les maires se rattrapent quand même de façon très importante sur les taxes foncières.
Oui, et puis là, on va voir justement les effets collatéraux de la baisse des transactions.
Oui,
je pense que les collectivités locales elles-mêmes vont pas tarder à prendre la parole parce qu'attention, ça va faire des revenus en moins pour elles.
Il
faut savoir
clair.
Que les deux principales ressources quand même, hein, les deux principales recettes pour les départements, c'est quoi ? C'est la taxe foncière et les droits de mutation. Hein. Donc à un moment donné, il va falloir quand même mesurer ce qu'on va perdre en milliards. Et attention, je pèse mes mots, hein. En milliards d'euros au niveau des départements et des collectivités.
Juste, il nous reste 3 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors,
enfin, écoutez, moi, il y a des gens très intelligents, très effectivement compétents qui discutent. Maintenant, les propositions, on verra de quoi ce qu'il en ressort. Alors, on nous parle du statut du bailleur privé. Ça fait 15 ans qu'on entend parler de ça. 15 ans, le statut du bailleur privé, qu'un amortissement, etc. Ce dont on a besoin, surtout, c'est de stabilité. S'il n'y a pas de problème, notamment en Allemagne, c'est parce qu'ils ont la même loi depuis 40 ans. Nous, en 40 ans, on a changé 17 fois de loi d'incitation fiscale. 17 fois. Et pendant 40 ans, on a changé 14 fois le principe du calcul des plus-values. Donc, de la stabilité, de la simplicité, et puis peut-être aussi, quand même, parce que là, on va vers une casse, effectivement, notamment sociale, très importante. Un conseil et une mise en garde. Un conseil, les investisseurs aujourd'hui, c'est très compliqué, les produits avec défaut ne se vendent pas, il n'y a pas d'appel, donc il y a des opportunités vraiment très intéressantes à faire. Donc regardez quand même, peut-être basculer du cash, parce qu'aujourd'hui, de financer, c'est très compliqué. Et puis une mise en garde, la casse sociale chez les promoteurs, elle est là, ça va être une boucherie. Tous les jours, on a des collaborateurs qui nous appellent pour nous dire on ferme telle filiale, on dépose le bilan le mois prochain, etc. Donc attention aux réservations que des investisseurs pourraient faire ou des propriétaires occupants chez les promoteurs, parce que là, ça va saigner très très fort. Là, la casse sociale, elle est lancée. Bon, plus rien ne pourra l'éviter, en tout cas en grosse partie. Donc attention.
Oui, parce qu'on rappelle quand même que l'IMO, en plus, c'est du temps long.
Ah oui.
Et que c'est pas, enfin, et que si une décision était prise le 5 juin.
Ah oui, mais il aura un effet sur les chantiers dans deux
oui,
ans.
Oui, mais
deux
c'est
ans
important. Enfin, je suis désolée, je me permets.
Pour les deux ans à venir, ça va être l'apocalypse. Hein, là, c'est sûr.
Ne profitera pas non, à celui qui n'est pas l'assurance.
Exactement, mais je pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de faire, et ça rejoint ce que dit Stéphane, hein, c'est on ne peut pas se contenter de faire à chaque fois la même chose, c'est-à-dire de dire trop de dépenses publiques sur le logement, je coupe. Ah bah bim, le secteur dégringole, je remets de la dépense via des outils type PTZ, machin, etc. Et puis bon, bah après, ça va bien, donc je coupe. Non, il faut les deux. C'est-à-dire là, on est dans l'urgence, donc il va falloir relancer certains dispositifs, ça me paraît être une évidence. Mais derrière, il faut que le CNR porte ses fruits avec des mesures moyen-long terme, ça c'est clair.
Bah, que les forces de l'univers vous entendent, Marie.
Mais je prie.
Oui, c'est bien.
Toujours plus haut, toujours plus fort. Oui. Jusqu'à l'infini ou au-delà.
Oui, c'est ça.
Merci l'éclair. Beaucoup. Stéphane Descartiers, donc la maison de l'investisseur Marie Cœur de Roy, on se retrouve demain.
À demain.
Ce sera le club IMO. On est mercredi demain.
Mais oui,
mais
c'est
ça. Ce sera le club IMO. Dans un instant, ce sont nos traders qui liront le marché. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Chaque matin, deux traders se mettent à votre service et on retrouve aujourd'hui Romain Daubry depuis Bourse Direct et Jean-Louis Cussac depuis ses bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux, merci d'être au rendez-vous. Romain, que faut-il comprendre de cette tendance qui se veut quand même assez saisissante? Certes, on est revenu entre guillemets dans le vert, mais enfin on ne s'éloigne guère de notre niveau de clôture d'hier soir.
Bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous. On est dans une phase de consolidation, comme on le pressentait depuis quelques temps. On n'a pas d'intérêt dans ce marché. On a des volumes dignes d'un 15 août, avec 2,3 milliards échangés hier sur l'indice parisien. On entame cette semaine d'échéance un peu en roue libre, échéance donc des marchés dérivés qui aura lieu vendredi. On constate qu'il n'y a pas de pression du côté des futurs. On n'arrive pas à détecter d'intérêt au cours de toute l'échéance qu'on a créée depuis le 21 avril dernier. Pas de pression, que ce soit haussière ou baissière. On est quasiment neutre, on n'a pas créé d'intérêt. Les portefeuilles restent couverts, donc ça veut dire que les opérateurs restent prudents. Il n'y a pas de complaisance dans ce marché pour l'instant toujours. On n'a pas beaucoup de drivers cette semaine en dehors des chiffres de l'inflation en Europe demain et puis des ventes au détail aux États-Unis cet après-midi. Moins de publications, pas énormément d'éléments pour faire bouger le marché. Donc on consolide à plat dans un grand trading range. La bande basse sur le CAC 40, c'est 7277 qui est notre alerte de court terme, 7333. Puis la borne haute du trading range, c'est 7462-7483, un niveau au-delà duquel on réactiverait la dynamique haussière. Or, on constate qu'à l'intérieur de cette zone de consolidation, les cotations se resserrent à l'intérieur d'une figure qui fonctionne bien, qui est un triangle symétrique. Donc ça se resserre un petit peu. Les bornes exactes de ce triangle pour la séance, c'est 7307-7451. Donc tant qu'on est à l'intérieur, pas d'accélération marquée. Et c'est une figure qui pointe jusqu'au 15 juin. Donc la consolidation pourrait se prolonger un peu. Reste qu'avec un triangle, pour que le mouvement soit un peu fort, il faut que la sortie se fasse avant les deux tiers ou trois quarts de la figure, ce qui voudrait dire autour de fin mai, début juin, pour que le mouvement soit un peu important. Pour l'instant, on n'a pas de signaux dans ce sens-là, mais pas de vulnérabilité majeure pour l'instant.
Voilà donc pour la vision proposée par Romain Daubry, filon chez Perceval Finance Conseil pour voir ce qu'en dit Jean-Louis. Comment travaillez-vous le marché ?
Toujours à l'achat, Cédric. J'ai pas changé. Et hier, on a eu l'occasion justement On parlait avec Stéphane Dutheil de 7400, 405. Ce niveau avait fini par être atteint. On a rebondi. Ce matin, on arrive, on a la chance d'aller chercher 7377. 16,5 même. Et puis on a rebondi en 30 minutes à 7428, vous rendez compte. Donc nous, on a acheté ce matin à partir de 7390 jusqu'à 70. C'est la zone, voilà. Et ça s'est fait encore une fois sans rencontrer de résistance. Donc on continue dans cet esprit. On a 12,5 de vol implicite. 380 millions d'échangés hier, c'était à cette heure-là. 290, vous vous rendez compte. L'hésitation se poursuit. Les volumes sont historiquement faibles pour la période. Les banques centrales hésitent. Eh bien, les investisseurs hésitent et il n'y a pas de croisement d'intérêts, pas de brassage, parce que les acheteurs attendent davantage de baisse et les vendeurs se disent, après tout, j'ai le temps, donc je n'appuie pas sur le bouton.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents ce matin comme tous les jours. On se retrouvera tout à l'heure, Romain, à 11h30 pour suivre cette séance parisienne, pour le moment assez hésitante, plus 0,03% pour le CAC, 7420 points et la fourchette de fluctuation n'est pas très élevée entre le plus haut et le plus bas de la séance, malgré un démarrage tout à l'heure dans le rouge sur l'indice CAC 40, 7420 points. Point donc pour le CAC.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron l'a confirmé hier soir sur TF1, il y aura des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Qui, quand, combien, comment?
Alors qui, on sent que c'est le bas de la classe moyenne. Il avait dit 1500 à 2500 de revenus par mois. On imagine que c'est pour une personne seule. Si vous prenez un couple avec deux enfants, ça vous mettrait dans les 3500 jusqu'à 6500 de revenus par mois. Quand, d'ici la fin du quinquennat, quand les finances publiques le permettront. Objectivement, si vous regardez l'état de nos finances publiques, je ne vois pas à quel moment on va avoir une fenêtre pour ça, mais bon. Combien? 2 milliards d'euros. Et alors, comment fait-on? On a la possibilité de refaire une baisse de tranche d'impôt sur le revenu, comme on a fait en 2019 à la fin des Gilets jaunes à l'époque. On baisse la tranche de 14 à 11%. Ça représente 4 milliards d'euros de dépenses fiscales, en fait. Et ça va profiter à 12 millions de foyers à hauteur de 350 euros par an en moyenne. On peut aussi jouer sur le quotient familial. On dit que une demi-part par enfant, c'est finalement une part. Là, on joue plus sur le modèle de la famille que sur les classes moyennes proprement dites. On peut jouer sur les éternelles baisses de cotisations obligatoires prélevées sur les salaires, les cotisations sociales. Il y a bien un moment où il faudra continuer à financer la protection sociale d'une autre manière. Et puis, il y a aussi une idée qui a été esquissée hier par Emmanuel Macron en disant, de toute façon, qu'il avait lancé la boîte à idées du gouvernement sur le coup. C'est d'utiliser la prime d'activité et de modifier la courbe de lissage de la dégressivité de la prime d'activité en fonction de l'augmentation des revenus. Cette prime d'activité, on la touche, alors c'est là où elle est la plus basse, hein, mais on la touche jusqu'à 1,5 SMIC aujourd'hui, ce qui représente 2 029 € net par mois. Après, il a mis en avant, mais enfin ça, ce ne sont pas des mesures de baisse d'impôts vraiment. La prime de la valeur, prime de partage de la valeur, elle exprime Macron qui jusqu'à 6 000 euros. Et puis, ce que va donner la loi qui doit retranscrire l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. Mais les vraies décisions purement fiscales, on pense que c'est plutôt l'impôt sur le revenu ou alors des baisses de cotisations, très franchement.
Mais on a encore les moyens de tout ça?
Non, bien sûr qu'on n'a plus les moyens. Vous prenez... Fitch ne nous a pas dégradé pour rien. Vous avez une note de la Banque de France hier qui constate quand même qu'on est les pires élèves avec l'Espagne de l'Europe en matière de non-désendettement public et non-désendettement privé. Ça fait quoi, 3-4 fois que François Villeroy de Galhau pour la Banque de France dit on ne peut plus se permettre de baisser les impôts sans les financer. Tout récemment, on a eu Pierre Moscovici pour la Cour des comptes qui a dit la même chose. Maintenant, une baisse d'impôts, ça doit être compensé. Enfin, on a objectivement, si vous voulez, on n'est pas du tout en faillite, on ne va pas se prendre un incident de crédit là, dans le mois qui vient, mais on a objectivement des comptes publics dans un état calamiteux aujourd'hui. Mmh. Donc la réponse est non, on n'a pas les moyens. Et d'ailleurs, ces 2 milliards d'euros étaient inscrits dans la trajectoire des finances publiques à horizon 2027. A priori, ils étaient plus inscrits pour baisser les droits de succession. Considérez que ce qui a été annoncé sur les classes moyennes exit la fiscalité.
On ne reverra pas voilà. Les droits de succession.
A priori, la promesse de baisser les droits de succession, probablement qu'elle connaît son enterrement de première classe en ce moment.
Donc l'enjeu maintenant, c'est de financer, de compenser, de...
Oui. Ben voilà, il faut compenser, financer les baisses d'impôts. Alors, on a une grande détermination politique portée par Bruno Le Maire depuis maintenant quelques semaines. 7 milliards d'économies en 2024. Je tords le bras de tous les ministères. Ils me trouvent tous 5% d'économies, hors masse salariale. Hein. Donc, vraiment là... Bon, moi, je vois, si vous voulez, ce qu'on a toujours annoncé, ce qu'on n'a jamais réalisé. Hein. C'est-à-dire que, quand on parle de réforme de l'État, de reprise en main des finances publiques, on connaît le nom des programmes. Ça s'appelle RGPP, sous Nicolas Sarkozy. Ça s'appelle MAP, Modernisation de l'Action Publique sous François Hollande. Ça s'appelle CAP 2022 sous Emmanuel Macron. Vous vous souvenez tous du nom des programmes. Vous aurez beaucoup plus de mal à vous souvenir de ce qu'ils ont apporté. Mmh. Objectivement, bon, il y a eu un petit effet positif sur les effectifs de la fonction publique sous Nicolas Sarkozy. Du coup, il faut effectivement compenser, il faut effectivement financer. Eh bien, il y a des petites idées de recettes nouvelles qui circulent. Donc, parmi les idées de recettes nouvelles, l'idée qu'on pourrait imposer un reste à charge, pas négligeable, sur l'usage du compte personnel de formation. Et puis, on a constaté aussi que la facture des remboursements d'arrêt maladie a considérablement augmenté. Donc, on pourrait agir aussi sur la façon dont les indemnités journalières de l'assurance maladie sont versées. Donc voilà, je crains malheureusement qu'on ait une petite case fiscale ou une dépense fiscale qui ne dit pas son nom pour financer des baisses d'impôts promises par Emmanuel Macron. Mais on n'a pas la date encore une fois.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Tout de suite, on s'intéresse à vos placements.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Alors c'est un peu la séance de réponse aux questions avant l'heure. Lors de votre dernier passage, Amélie, vous nous aviez présenté un montage intéressant, adapté pour de l'immobilier, pour se créer des revenus complémentaires, payer peu d'impôts, tout en transmettant son patrimoine. Et depuis, on a eu pas mal de demandes, figurez-vous, pour savoir comment poursuivre les mêmes objectifs avec des actifs financiers. Amélie Zegelmaier, bonjour.
Bonjour Cédric.
Alors, c'est possible ?
Oui, c'est possible. C'est vrai qu'on peut avoir pour réflexe de penser immobilier comme solution idéale pour des revenus complémentaires, parce qu'on a les loyers qui tombent tous les mois tous les trimestres, mais certains actifs financiers remplissent aussi très bien ce rôle.
Mais il y en a beaucoup, comment on s'y retrouve ?
Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Déjà, on peut les classer selon deux catégories. Il y a les produits qui capitalisent, qui auront un objectif de valorisation sur long terme, et les produits qui distribuent. Dans une stratégie de revenus complémentaires, c'est évidemment la deuxième catégorie qui va nous intéresser. Et parmi lesquels, on va retrouver les obligations. Et c'est vrai que suite à la hausse des taux l'année dernière et au krach obligataire, c'est une classe d'actifs qui est redevenue intéressante. Donc le revenu délivré chaque année qu'on appelle coupon va dépendre de la notation de la société ou de l'État qui émet cette obligation. Plus le risque sera important, plus le coupon sera élevé. Et pour avoir un ordre d'idée, sur les entreprises les mieux notées, on est tout de même à 4% actuellement par an en moyenne. Et on peut aussi, si on le souhaite, aller sur des obligations qui sont émises par des entreprises non cotées. Donc là, il n'y aura pas de système de notation. Et en l'absence de liquidité, puisqu'elles ne sont pas cotées sur un marché, vous aurez une performance plus élevée.
Ça, c'est les obligations. Mais il n'y a pas que les obligations dans la vie.
Non, il n'y a pas que les obligations. On peut aussi investir sur un fonds action qui distribue les dividendes perçus, ou vous pouvez vous-même vous constituer un portefeuille avec des actions à dividendes. Après, bien sûr, ce sera soumis aux aléas boursiers. Bien sûr. Pour ceux qui veulent prendre aucun risque, le fonds euro, même si on est autour de 2%, peut être une solution pour eux. Et sinon, sur un produit qui peut avoir un couple rendement risque intéressant, on retrouve les produits structurés type Phoenix, où on peut avoir aujourd'hui un coupon entre 6 et 7% par an.
Juste vous nous rappeler rapidement ce que c'est que ces produits dérivés, ces Phoenix.
Alors, les Phoenix sont des produits structurés. Alors déjà, les produits structurés, ça permet de s'exposer au marché financier, le plus souvent en suivant un indice, et avec une protection du capital sous certaines conditions. Et l'avantage, c'est qu'on connaît toutes les conditions d'avance.
D'accord.
Donc, la durée maximale du produit, les conditions de remboursement anticipées, jusque quelle baisse du sous-jacent votre capital est garantie. Et les Phoenix, puisque c'est ce qui nous intéresse ce matin, sont vraiment faits pour vous créer des revenus complémentaires, puisqu'il va y avoir en plus une barrière de distribution des coupons. Par exemple, moins 20% par rapport au niveau initial de l'indice. Et donc, même en cas de produit négatif, aux dates de constatation qui sont fixées d'avance, qui peuvent être une fois, deux fois, quatre fois, voire plus par an, vous percevez un coupon.
D'accord.
Et on peut même avoir un effet mémoire. Admettons que sur 4 trimestres, vous n'avez pas perçu votre coupon parce que vous êtes en dessous, l'indice est en dessous de la barrière de distribution. Au trimestre suivant, vous repassez au-dessus de la barrière de distribution, vous n'avez pas un coupon, mais le coupon plus les 4 qui n'auront pas été versés.
Bon, donc là, on a quelques idées de produits. Après, il y a la fiscalité quand même.
Oui, c'est une très bonne question. Alors, la fiscalité, elle va dépendre de là où sont logés les actifs financiers. Si c'est sur un compte titre, ce sera la flat tax de 30%. Ce qui en soi est déjà un taux intéressant parce que les revenus fonciers, c'est le barème progressif de l'impôt. Donc, on est très vite à 30%. On peut être jusqu'à 45% et il faut rajouter 17,2% de prélèvements sociaux. Après, si on souhaite optimiser davantage la fiscalité, il y a d'autres enveloppes qui vont être plus favorables.
Alors, Alors justement, quelles sont ces enveloppes?
Je pense tout simplement au placement préféré des Français, à l'assurance vie, puisque pour avoir des revenus complémentaires, vous allez effectuer ce qu'on appelle un rachat, un retrait partiel, ponctuel ou programmé sur votre contrat d'assurance vie. Et sur la somme retirée, on va calculer quelle part représente les intérêts. Et c'est seulement cette partie qui va être fiscalisée.
Ah oui. Avec des avantages fiscaux parfois qui aident ça. Est-ce qu'on peut justement prendre un petit coin de table et donner un exemple chiffré?
Oui, pour se rendre compte à quel point il y a un différentiel important. Par exemple, on investit 100 000 euros, on a 5 000 euros de gains, on décide de les retirer. Alors, je vous épargne la formule fiscale de l'administration, de calcul de l'administration, et on sera fiscalisé à hauteur de 75 euros d'impôt seulement. Sur un compte titre, c'est 1500 euros.
Ah oui.
Donc, on se rend compte que le différentiel, il est important. Après, je sais ce que vous allez me dire, Cédric, vous allez me dire, oui, mais sur l'assurance vie, il y a beaucoup plus de frais de gestion que sur le compte titre.
En quelque sorte.
Et vous avez raison. Mais c'est pour ça que c'est important de tout comparer, de pas se limiter uniquement au montant des frais. Et nous, quand on fait des simulations pour nos clients pour voir ce qui est le plus intéressant pour eux, c'est très souvent, pour ne pas dire tout le temps, l'assurance vie qui tire son épingle du jeu sur les revenus complémentaires.
D'autant qu'on a cet avantage-là, et puis un avantage successoral aussi sur l'assurance vie.
Complètement. On peut rappeler qu'on a un abattement de 152 500 par bénéficiaire pour tous les versements avant 70 ans, quel que soit le lien de parenté. Les capitaux suivants, donc 700 000 euros, c'est taxé seulement à 20%. Toujours par bénéficiaire, et le surplus à 31,25. Et puis la clause bénéficiaire, elle est libre. Donc vous pouvez la changer à tout moment, la démembrer.
Il y a des limites à cette, entre guillemets, stratégie?
Alors la limite, ça va être celle de votre contrat d'assurance vie. Puisqu'autant sur la fiscalité, quelle que soit la compagnie d'assurance, ce sera la même.
Tout le monde est logé à la même enseigne.
Exactement. En revanche, au niveau des fonds qu'on peut loger à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie, il y a des disparités très fortes selon les contrats et selon les compagnies d'assurance. Donc c'est important d'être vigilant, de savoir le nombre de fonds que vous avez à disposition, leur typologie, le nombre de gestionnaires, s'il y a des produits structurés. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant pour les montants importants de s'intéresser au Luxembourg, puisqu'il y a un univers d'investissement qui est beaucoup plus large et on peut référencer des fonds nettement plus facilement qu'en France.
Pour conclure ?
Pour conclure, par rapport au cahier des charges qui était fixé d'avoir des revenus complémentaires, de préparer sa transmission et de bénéficier d'un cadre fiscal optimisé, on se rend compte que l'assurance vie répond très bien à ses objectifs en investissant sur des OPCVM de distribution, des produits structurés. On peut espérer un rendement autour de 3, voire 6% de rendement, net de frais de gestion, net de fiscalité. Donc c'est parfois les solutions les plus simples qui sont les plus efficaces.
Merci Amélie. Amélie Ziegelmaier est donc expert et finance qui nous accompagne très régulièrement. Merci d'avoir relevé le défi. Tout de suite, on jette un œil sur les marchés.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Un petit coup d'œil sur ce marché, qui se cherche en fait. Moins 0,04, plus 0,04, on voit si vous êtes à la télé sur la courbe que l'indice fluctue autour de son niveau de clôture d'hier soir, 7415 points. Ailleurs en Europe, c'est un petit peu la même chose, on est peut-être un petit peu mieux loti avec une couleur très légèrement vert, plus 0,14% pour l'indice européen. À Paris, du rouge sur Bouygues, sur Renault, sur Vivendi, du vert sur Airbus, Safran et ST Micro, l'Eurodoll 1,09 tout rond.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on dévoile ce matin la toute première édition du baromètre de l'épargne, de la retraite et des placements, baromètre réalisé par Odoxa pour BFM Business et Capital en partenariat avec Groupama. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir Mireille Wimbert pour Capital. Bonjour Mireille.
Bonjour Cédric.
Et Gaël Sliman pour Odoxa. Bonjour Gaël.
Bonjour Cédric.
On commence avec vous. Vous nous faites le pitch un peu de cette enquête.
Alors tout est dans le titre déjà, vous l'avez dit, c'est... Le premier baromètre récurrent qui existe à ma connaissance et que nous avons décidé de monter avec Groupama, BFM et Capital et qui va suivre la manière dont les Français se projettent et les épargnants sur toutes les questions d'épargne, de retraite, alors on est au cœur de l'actualité, et de placement. Et pour ça, on interroge des échantillons, alors selon les vagues, on avisera ensemble, de Français et d'épargnants. Parfois des benchmarks européens qui seront intéressants à suivre, qui nous permettront de voir comment on se situe. Et on a des vieilles questions, des très anciennes questions qui existent, qu'on aime bien reposer de temps en temps, qui nous permettent de voir comment les choses ont évolué sur 4 ans, 5 ans, 15 ans dans la tête de l'épargnant aujourd'hui. Voilà pour le pitch.
Alors, le premier enseignement de cette étude, c'est que les Français épargnent beaucoup, Gaël.
Alors, on l'a déjà mesuré ensemble avec vous, notamment à BFM, sur d'autres études. Nous sommes des fous de l'épargne, vous le savez bien. On peut même dire que chez les Français, il y a une sorte d'adage. Quand ça va mal, j'épargne parce que ça va mal. Et puis quand ça va bien,
j'épargne quand même parce que ça pourrait aller mal.
Même parce que ça ira plus mal demain. Et donc on est dans cette histoire-là avec nos concitoyens, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Français, on parle en vérité d'épargnants, puisque les trois quarts des Français sont des épargnants au sens de l'étude, c'est-à-dire qu'ils arrivent tous les mois à mettre de côté une petite somme d'argent ou une somme plus importante ou une grosse somme pour l'avenir. Et on a même un Français sur deux, 49% exactement, qui sont, on va dire, des épargnants significatifs, c'est-à-dire qu'ils mettent de côté tous les mois plus de 50 euros par mois. Ah oui. Puis après, on a des gros épargnants qu'on a caractérisés aussi. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce que quand on les interroge sur leurs intentions à venir, ils nous disent, nos concitoyens, qu'ils ont l'intention d'épargner encore davantage. 43% de ceux qui épargnent, de manière conséquente, comptent encore épargner davantage à l'avenir. Mais malheureusement, vous le savez bien l'un et l'autre, la raison pour laquelle les Français épargnent, à la différence des autres pays européens quand on fait des enquêtes en benchmark européen, c'est pas parce qu'ils ont envie de projets constructifs, parce qu'ils prévoient des choses, de créer une boîte, une start-up.
C'est vraiment de l'assurance, de la garantie.
C'est de la peur. Ouais. Le premier motif d'épargne, nous disent les Français dans l'enquête, c'est la peur, la crainte de l'avenir. Et on va le voir dans un instant, la réforme des retraites a plutôt accentué ces peurs.
Il a raison, Gaël.
Ah, il a complètement raison. Les Français sont des fourmis, on le sait. Ils sont extrêmement prévoyants. La Banque de France a rendu ses chiffres la semaine dernière. En 2022, ils ont épargné 159 milliards d'euros. Alors, par rapport à l'année d'avant, c'est presque pareil. 161 milliards en 2021. Évidemment, en 2020, bon là, c'était l'année où on était coincé chez soi. Donc là, on ne pouvait rien consommer. Là, on a épargné plus de 200 milliards. Mais avant la pandémie, on épargnait en moyenne chaque année 100 milliards. Là, on est à 159 milliards. Donc c'est beaucoup d'argent qui continue à être épargné par les Français, effectivement, qui sont prévoyants. On sent quand même une petite inflexion au dernier trimestre 2022. Là, ils ont épargné encore beaucoup, mais moins que les trimestres précédents. Et puis surtout, ce qu'on sent, les Français épargnent, mais souvent, ils épargnent mal. Vous le savez, ils laissent beaucoup d'argent sur leur compte courant. Et bien là, ils ont compris. À partir du dernier trimestre 2022, ils ont commencé à prendre l'argent qui dormait sur leur compte courant et qui n'était pas rémunéré. Et ils ont commencé à basculer cet argent sur les livrets A, sur les livrets réglementés qui, eux, vous le savez, ont une rémunération maintenant de 3%. Et ce mouvement-là, des comptes courants non rémunérés vers l'épargne réglementée livret A et autres livrets réglementés à 3%, s'accentue d'après la Banque de France au premier trimestre 2023, à fin mars, selon les derniers chiffres.
Vous avez insisté, Gaël, sur cette histoire de retraite, parce que c'est vrai qu'on sort de cette séquence, comme on dit en bon langage politicien. Ouais. Et c'est vrai que dans l'imaginaire des Français, on a cette espèce de retraite presque garantie et autres. Et non, on s'aperçoit que la retraite, elle fait partie, elle tourne aussi dans la tête des épargnants.
Oui, la retraite, elle tourne dans la tête des épargnants. C'est un sujet, bon, on l'a vu, de mécontentement profond. C'est même un euphémisme de le dire comme ça, mais c'est aussi un sujet qui a des conséquences, cette promulgation de la réforme des retraites, sur les intentions d'épargne. Quand on interroge les épargnants qui nous disent qu'ils comptent épargner encore davantage à l'avenir, les principaux motifs qui leur donnent envie d'épargner davantage, bon, il y a l'inflation, hein, 78% nous disent qu'ils tiennent compte de ça dans leur intention d'épargne future, et puis il y a la promulgation de la réforme des retraites. 58% de ces épargnants qui comptent mettre encore de côté plus tard nous disent, la réforme des retraites y contribue parce que les Français sont moins persuadés que jamais, ou plus persuadés que jamais, qu'ils ne pourront pas bénéficier d'un système de retraite.
Donc vous voulez dire que cette retraite, c'est en fait cette réforme que le gouvernement a voulu, pédagogique, pour essayer de restaurer la confiance, de dire que le système tiendra, enfin, ou lui permettre de tenir,
elle a l'effet inverse.
On a raté la cible ?
Oui, c'est-à-dire qu'on a eu on connaît tous le win-win. On a eu du lose-lose là sur cette réforme en termes, bon, à la fois sur les marchés financiers avec la dégradation de la note de, par Fitch, mais aussi du point de vue de la capacité à rassurer au moins les Français sur l'avenir et sur la pérennité de leur système de retraite, puisque les trois quarts des Français nous disent non, non, je ne crois pas du tout que le système me permettra de bénéficier d'une retraite correcte plus tard. Et du coup, que font-ils ? Eh bien, ils se ruent vers les éléments permettant de bénéficier d'une retraite complémentaire. Et on a aujourd'hui 37% des Français, on interroge des gens qui ont juste qui sont majeurs, hein, qui ont au-delà de 18 ans. Donc 37% des Français nous disent qu'ils ont un produit d'épargne pour leur retraite. On est à 58% chez les plus âgés d'entre nous. Donc, et ça progresse. On est à plus 3 points en 3 ans. Donc c'est quelque chose d'assez exponentiel. Et là-dedans, évidemment, il y a le PER qui tient une place importante, mais on va en parler dans un instant.
Ça n'a servi à rien ? Du lose-lose, une note dégradée.
On espère que ça pourrait peut-être remettre les comptes à l'équilibre, mais là encore, cette question n'est pas absolument résolue puisque des économistes disent qu'a priori en 2030 ben on aura encore un déficit, donc il faudra y revenir. Par ailleurs, quand on fait une réforme des retraites, il y a eu vraiment un cafouillage de communication, pour ça tout le monde le sait. On a commencé par dire que c'était, on faisait cette réforme pour qu'elle soit juste, puis on a fini par donner la vraie raison pour mettre le système à l'équilibre. Mais mettre le système à l'équilibre, c'est pas un gros mot pour nous Français. Mettre le système à l'équilibre, ça veut dire qu'on pérennise notre système de retraite par capitalisation. Normalement, on pérennise notre système de retraite par répartition naturellement. Ça doit nous rassurer sur ce qu'on va percevoir plus tard. Mais il y a eu des tels cafouillages sur les petites retraites à 2000, à 1200 euros, etc., qu'on ne sait plus. Aujourd'hui, par exemple, le taux de remplacement, c'est quoi ? Le taux de remplacement, c'est ma retraite nette par rapport à mon dernier salaire net. Pour un non-cadre, c'est 75%. Le conseiller d'orientation des retraites nous dit ce taux de 75, il va baisser à l'horizon 2030, il va arriver entre 65 et 70. Très bien. Pour les cadres qui sont à 50% de taux de remplacement, 50% de taux de remplacement, ça veut dire si je touchais 4000 euros net, je vais toucher 2000 euros net à la retraite. Les cadres, ça va baisser aussi. Je suis personnellement incapable de vous dire si avec la réforme, cette baisse anticipée par le corps avant la réforme, si cette réforme fiche cette baisse et qu'on dit bah du coup on garde cette baisse, ou si cette réforme corrige cette baisse. Je ne sais pas.
Ouais, d'accord.
Je ne sais pas, et donc c'est compliqué de savoir pour chacun d'entre nous, est-ce que je vais avoir mieux, pire. Alors ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, si on cotise 2 ans de plus, là on partait à 62 ans, on avait une certaine retraite, encore heureux, si je pars à 64, je vais avoir davantage, mais c'est normal, j'ai cotisé plus longtemps.
Bien sûr, ouais.
Mais tout le monde ne sera pas dans cette situation, donc c'est difficile d'avoir des grandes lignes, et du coup, on est un peu perdu.
Bon, ils épargnent, ils s'inquiètent, ils ont quand même la thématique retraite, nos épargnants. Mais du coup, ils retiennent quoi comme produit ? On reste bloqué sur les produits historiques du fonds euro, du livret A, du...
Alors, oui, plus que jamais. On a, alors, d'abord, il y a un premier élément, c'est la course au PER. Donc, le PER étant progresse encore. On a plus d'un quart des Français qui nous disent qu'ils en ont déjà souscrit un ou qu'ils comptent en souscrire un dans un futur proche. Et ensuite, on assiste à une bataille intéressante sur les deux grands placements forts, l'assurance vie et les livrets, les comptes sur livrets, où on a un retournement de tendance qui s'est fait, un croisement que l'on observe sur ces 4 dernières années, avec la hausse de l'inflation, avec les taux, etc., où on a finalement une épargne de précaution qui est perçue comme étant la meilleure, qui est les placements sur livret. On a 46% des Français qui nous disent, pour épargner en cas de coup dur, c'est là-dessus qu'il faut se tourner. Et quand on les interroge sur le match assurance-vie-livret A, ce qui était intéressant à suivre, parce qu'on est sur des produits stars, hein, on a une personne sur deux en France qui nous dit qu'elle a déjà contracté au moins une fois dans sa vie une assurance-vie, ou qu'elle en a une en ce moment. Et puis pour les livrets, on le sait, c'est quelque chose qui attire aussi les épargnants. Aujourd'hui, ils nous disent, le placement le plus intéressant, ce sont les comptes sur livret comme le livret A. 38% le disent, 33% misent plus sur l'assurance-vie. Les autres ne tranchent pas entre les deux. Mais ce qui est intéressant, Cédric, c'est qu'on a un retournement en 4 ans, puisque il y a 4 ans, en 2019, on était à seulement 18% qui citaient les comptes sur livret comme le livret A, comme étant le plus intéressant. Et on était au contraire à 50% qui donnaient l'assurance vie. Donc il y a une vingtaine de points de perdus par l'assurance vie et de gagnés par le livret A sur le sentiment à la fois de sécurité, mais aussi sur un sentiment de placement intéressant, produit d'épargne intéressant.
Le
PER fait un carton. PER fait un carton. C'est un excellent produit. On était à 4 millions d'assurés fin mars et 51,4 milliards d'euros d'encours quand on sait qu'il a été créé par la loi PACTE en 2019. Donc ça fait pas bien longtemps.
Bien sûr.
Ce PER, il a un succès parce qu'il répond à la demande. Les gens qui vont, on l'a vu tout à l'heure avec le taux de remplacement, un cadre, il a 50% de taux de remplacement. Ça veut dire que sa retraite nette sera égal à 50% de son salaire, de son ancien salaire net. C'est eux qui ont besoin d'épargner, n'est-ce pas? Et bien, ce PER, il s'adresse aux gens qui sont fiscalisés, qui ont des salaires importants. Et donc, eh bien, ça permet un avantage fiscal important puisqu'il y a une déduction d'impôt. En plus, il a été nécessairement assoupli. Maintenant, on peut sortir en capital, ce qui est quand même bien. On peut sortir pour acheter la résidence principale. Donc, ce PER, il est vraiment installé dans le paysage et les gens l'utilisent vraiment pour ce qu'il est, pour épargner pour leur retraite avec le coup de pouce fiscal de l'État. Pour le faire. Et puis après, ce que vous dites est extrêmement intéressant. La bascule livret A assurance vie, ça c'est sûr qu'à 3%, le livret A est plus intéressant que le fonds en euros de l'assurance vie. Il est plus souple, on peut le mobiliser plus rapidement.
Même si tous nos experts nous disent que ce sont des produits qui ont des finalités différentes.
Je suis d'accord avec eux, mais jusqu'au plafond du livret A, jusqu'à 22 950 euros plafond du livret A, moi mon conseil c'est remplissez votre livret A. Une fois que vous l'avez rempli, on a un livret de développement durable et solidaire qui est aussi à 3% sans contrainte aucune, sans impôt, etc. Et là, qui est plafonné à 12 000 euros. Les 12 000 plus les 22 950, on est à près de 35 000 euros d'épargne totalement défiscalisée à 3%. Ça, faut y aller. On y va. Après, oui, les experts ont raison. On peut voir l'assurance vie sur des fonds en euros un peu boostés, sur d'autres choses. Mais commencez effectivement par remplir votre livret A et votre livret de développement durable et solidaire.
Bon, on a un auditeur fidèle, Guillaume Dard, qui nous dit l'épargne, c'est 15% des revenus, mais les 10%, c'est l'immobilier, surtout le remboursement, et l'épargne financière, ça n'est que 5%. On s'intéressera à l'IMO aussi là-dedans?
On l'a dans la liste, justement, et dans la clé, donc on salue Guillaume, dans la clé de répartition des placements, on voit que le livret est devant l'immobilier, est passé devant l'immobilier, qui est devant l'assurance-vie.
Voilà pour ce baromètre de l'épargne, de la retraite et des placements. Odoxa, BFM Business Capital et Groupama. On se retrouve très régulièrement, bien évidemment, pour ausculter votre épargne. Merci Gaël.
Merci
Gaël Sliman pour Odoxa. Mireille, on se retrouve tout à l'heure. Vous répondrez aux questions des auditeurs. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous à la toute fin de l'émission Le CAC entre elle et Gerbès. À tout de suite.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.